Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
En gros, est-ce que tu préfères galérer toute ta vie pour atteindre un rêve, un objectif, tout en n'étant pas sûr qu'il va te rendre heureux? Ou est-ce que tu préfères faire le choix tout de suite d'avoir une vie simple et sans embûches, entre guillemets, et de faire une croix là-dessus? Et ça a été une vraie question. Et c'est encore une vraie question de me dire, est-ce que là, le choix que j'ai fait de quitter Paris, d'avoir une vie simple, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais pas avoir la vérité sur certains points? Et ouais, ça, c'est la question du moment.
Benjamin se pose des questions sur la vie, sur les choses, sur les gens. Et j'aime beaucoup les questions, alors j'ai eu la curieuse envie d'aller voir ce qui se trame dans la tête de Benjamin Carboni. Il est de ceux qui n'attendent pas que les lignes bougent, mais qui les bousculent. Créateur du mouvement Clean Walker, il a pris la question du ramassage des déchets comme levier pour devenir un acteur du changement. Alors que 40% des déchets retrouvés dans la Méditerranée sont des mégots de cigarettes, Benjamin veut donner à tout le monde les clés pour que ramasser les déchets devienne une habitude. Dans cet épisode, il se confie sur sa vie avec beaucoup de légèreté, d'humour et de bienveillance. On parle de Clean Walker, de son enfance, de ses rêves, de ses réflexions. Il aime les gens, la vie, la nature, et peut-être que ce sont finalement ses plus belles armes pour prendre à bras le corps la cause climatique. Restez jusqu'au bout, fermez les yeux et laissez-vous emporter par les derniers mots de Benjamin comme note finale de ce moment partagé. Belle écoute!
1, 2, test micro, ça fonctionne.
Salut Benjamin!
Salut!
Comment tu vas?
Ça va, je vais bien.
Tu vas bien, bon, super, c'est tout ce qu'il faut. Alors, tu es le créateur du mouvement Clean Walker, donc on va en parler un peu plus tard. Tu es auteur du livre Déclic écologique, tu fais des photos, des conférences, enfin plein de trucs cool autour du climat. Mais au-delà de tout ça, comment tu voudrais te présenter toi, personnellement?
Oh, elle est vachement bien cette question.
Ouais, en plus, tu sais, j'ai cru comprendre que t'aimais bien la philosophie, tu vois, donc...
Non, mais c'est une bonne question, parce qu'on demande toujours aux gens ce qu'ils font, genre que ça résume, quoi. Comment je voudrais me présenter? Bah, que je suis un gars de 27, bientôt 28 ans, qui, voilà, qui se pose plein de questions, qui essaye de partager ses questions, qui essaye d'y répondre le plus souvent possible, et qui, en gros, il y a 2 ans, s'est dit, tiens, je vais...
Eh hey, t'as mais c'est pas vrai, hein. Oui, on fait un podcast, bonjour. Oui,
ouais,
bah, ça enregistre.
Julie Bernier, qui est toujours en train de s'incruster, sortez tout vert. Eh bien, voilà. putain, voilà, sortez tout vert, Bernier, qui pète les podcasts. Non, j'étais en train de me présenter et de dire que... ouais, je suis un gars de 27-28 ans qui se pose pas mal de questions, qui essaie de partager ces questions-là, parce que je me dis que si je me les pose, c'est que plein d'autres s'en posent. Enfin, j'essaie de mettre en avant le simple et voilà quoi. C'est pas une présentation très claire, hein, mais...
ouais, mais c'est très bien comme présentation. Et d'ailleurs, c'est quoi la question que tu te poses le plus?
Oh putain, mais elles sont vachement bien tes questions. question que je me pose le plus souvent, c'est... en ce moment... Ah si, faut que je dise celle de en ce moment. Qui est... Elle m'est revenue en tête grâce à Félix Radu, qui est un gars qui est incroyable.
Et Félix Radu, si tu nous entends, j'ai essayé Il voit mes messages, il répond pas, mais
ouais,
je veux absolument le recevoir.
Ouais, mais il est sollicité de ouf, parce que c'est un mec admirable.
C'est fabuleux ce qu'il fait.
Et qui, avant qu'il explose là aux yeux de beaucoup de gens, avait déjà des créations hyper intéressantes. Et son compte Instagram en a plein. Où il parlait beaucoup de textes de théâtre, de textes de philosophes. Et il le démocratisait un petit peu, l'expliquait plus simplement. Et une fois, il en a fait un sur être ou ne pas être, qui est une grande question. Qu'un personnage s'est posé dans une grande pièce et que mine de rien, quand tu te la poses simplement, eh ben ouais, c'était la grande question dernièrement, moi. Être ou ne pas être, dans le sens, si tu prends la première phrase du monologue qui est « Est-il plus noble de souffrir les flèches et les pierres d'une fortune affreuse ou de s'armer contre une mer bouleversée et d'y mettre une fin ?» En gros, est-ce que tu préfères galérer toute ta vie pour atteindre un rêve, un objectif, tout en n'étant pas sûr qu'il va te rendre heureux, ou est-ce que tu préfères faire le choix tout de suite d'avoir une vie simple et sans embûches entre guillemets et de faire une croix là-dessus? Et ça a été une vraie question, et c'est encore une vraie question de me dire est-ce que là le choix que j'ai fait de quitter Paris, d'avoir une vie simple, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je vais pas avoir des regrets sur certains points? Et ouais, ça c'est la question du moment, mais il y en a plein d'autres des questions tout le temps en train de m'en poser. C'est fatigant d'ailleurs.
On est vite rentré dans le dur du truc là. J'espère qu'on n'a pas perdu les auditeurs avec ta citation.
Mais non.
Bon, avant de parler de toutes les choses cool que tu peux faire au quotidien, j'aimerais qu'on parle du Benjamin quand il était petit.
Oh,
est-ce que tu peux nous décrire un peu ton enfance? Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce qui te passionnait?
Truc dur et après on passe truc pas joyeux. L'enfance, c'est compliqué comme question, parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai commencé... attention, sur une phrase très sombre. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé mon existence à 17-18 ans, moi. Genre avant, c'était un entraînement, quoi. J'ai eu un contexte familial qui a fait que je ne parlais pas. Je parlais très peu, ou en tout cas, je me suis senti libéré à partir de 12-13 ans. Genre avant... Donc j'étais un enfant à la fois très extraverti une semaine sur deux, parce que j'ai des parents divorcés, une semaine sur deux très extraverti, très naturel, et tout le monde à dire voilà, il fait blague, il est drôle, il est machin, il faut qu'il fasse du théâtre et tout. Et l'autre semaine, genre une bulle avec silence radio, aucun mot. Donc j'ai été un peu avec cet équilibre-là à trouver pendant pas mal d'années. Ouais, il y a eu toujours cet équilibre entre le gars qui s'amuse, qui rigole un peu de tout, qui fait tout le temps le clown et qui veut faire rire les autres. Et d'un autre côté, cette bulle de protection, entre guillemets, voilà. Et on va rigoler dans ce podcast, ouais. Hein.
Quels étaient tes rêves? On va parler de rêves. Quels étaient tes rêves quand tu avais 20 ans? Il me semble que tu faisais du théâtre avant de t'engager dans l'environnement.
Ouais.
Comment tu percevais ton avenir à cet âge-là?
Et pareil, c'est une vaste question. Parce que moi, je me suis posé la question autrement. Je me suis dit, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on est toujours obligé d'avoir un rêve. Tu vois, comme si tout le monde a un rêve. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai un rêve. J'ai pas eu de... Enfin, au rêve dans le sens comme voit notre société, à dire je rêve d'être le comédien le plus connu, ou je rêve d'avoir telle maison, telle voiture, ou je rêve de faire ci, je rêve de faire ça. Jamais eu de rêve précis comme ça. J'ai fait comédien parce que un jour, un gars m'a dit « tu peux le faire ». Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, j'y suis arrivé. Mais j'ai jamais c'était pas des rêves, c'était des objectifs. Plus je me suis dit ok, il y a ça, dans 2 mois il y a ça, bah, vas-y fais-le. Et quand je l'ai fait, j'ai dit ok, ça a été fait. Je pense que franchement mon rêve ultime, c'est d'arriver un jour de me dire je suis en paix avec moi-même. C'est une autre question que je me pose. Je me dis c'est fou que cette phrase de être en paix avec soi-même, on la dit toujours juste avant de mourir normalement. Alors je me dis, putain, mais ça doit être vachement bien si tu l'es pendant que tu vis, en paix avec toi-même pendant longtemps. Donc franchement, si j'ai un rêve, c'est ça. C'est d'être vraiment bien avec moi-même à un moment et de me lever et de me dire, ah, là, je suis bien. Et ok, c'est cool. Voilà.
Et tu sais, t'as des petites idées de comment y parvenir pour être en paix avec toi-même?
Ouais, c'est hein, le problème, c'est que quand tu t'en rends compte, c'est que c'est un cheminement de toute une vie d'apprendre à se connaître, d'être bien. Pour l'instant, j'ai fait des choix qui amènent à me faire que je me sens de mieux en mieux. Et puis ça va continuer comme ça. Et je verrai où ça me mène. Mais voilà. Mais après, j'ai fait plein de trucs qui peuvent être considérés comme des rêves que j'aurais jamais trop pensé accomplir. Et voilà. Si, je pense qu'à 20 ans, je rêvais de Je rêvais d'être dans une salle de théâtre avec plein de gens et de les faire rire. Et c'est arrivé quelques années après où je jouais devant 2000 personnes avec une troupe et que je me rendais compte que je faisais rire les gens. Et j'ai fait « Ah, ok, cool. » Et voilà. C'était, okay. C'était des rêves à court terme.
Ouais. Donc l'écologie n'était pas du tout présente encore. Quand est-ce que tu as eu ce déclic et qu'est-ce que tu as ressenti au moment de ton éveil à ce sujet ?
Eh ben justement, c'est un éveil parce que souvent on me pose cette question de qu'est-ce qui a été le déclic. Et ce que j'explique dans mon livre,
je mettrai
si
les notes.
Vous voulez l'acheter. non, mais ce que j'explique, c'est en fait, c'est que ça a été tout un cheminement qui a fait que c'est arrivé à un déclic. Mais le premier cheminement, ça a été que j'ai voulu apprendre à me connaître, j'ai voulu apprendre à savoir qui j'étais, à me dire ok, est-ce que j'ai pas envie d'être bien avec moi-même quoi. Et donc j'ai commencé plein de choses, plein de travail sur moi, de rencontres, de questions, de et forcément tout ça m'a amené à voir les choses autrement, à voir mon quotidien autrement, à voir mon environnement autrement. Et du coup, à l'époque, j'habitais à Paris et dès que je descendais en bas de chez moi, j'en avais marre de voir que c'était dégueulasse, que c'était bruyant, que c'était pollué de partout. Et en fait, j'ai commencé à... Premier truc que j'ai vu, c'est les déchets. J'ai eu les déchets sauvages de partout, j'ai vu que ça. Et donc, j'ai commencé à descendre... Je descendais en bas de chez moi et chaque jour, je faisais « Putain, j'en peux plus, quoi !» Et du coup, après, je suis parti... En Auvergne, chez mon père, parce que j'ai dit « Ok, j'ai envie de voir la nature et tout ça. » Et en fait, j'ai fait le même constat là-bas, quoi. Et après, je devais partir en vacances en Guadeloupe. La dernière fois que j'ai pris l'avion, d'ailleurs. Et j'ai eu un constat fois 1000 là-bas, où genre je suis tombé sur des champs entiers. Et j'ai fait « Ok, mais c'est pas possible !» Je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Et du coup, j'ai fait voilà le fait de ramasser les déchets. Et après... chose en entraînant une autre.
Ouais, parce que du coup, plus qu'un éveil, la protection de l'environnement, c'est devenu un petit peu au centre de ta vie ces dernières années. Tu as créé le mouvement Clean Walker, donc tu vas nous en parler. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ?
Eh bien, si je le présente de façon officielle, c'est un mouvement qui a pour but de sensibiliser les gens à l'impact de notre consommation sur sur l'environnement et l'impact de la pollution. Plastique et la pollution des déchets sauvages en général. Et aujourd'hui, on parle même de plus en plus de protection de la biodiversité et donc de faire des sensibilisations en école. Mais voilà, l'idée de base était très simple. C'est ce que je viens de dire avant, qui était que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire, moi, un petit comédien de 25 ans, comment je peux parler à ça aux gens? Et je me suis dit, bah, fais ce que tu viens de faire, qui est que tu marches, tu ramasses ce qu'il y a sur ton chemin. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec des gens et que ça soit un moment cool où on partage et de rendre ça un peu fun, quoi. Et je me suis dit ça quand j'étais en Guadeloupe et j'ai pensé à ce nom-là. Je me suis dit, ok. Donc, je suis rentré, j'ai fait ce qu'on fait quand on crée un truc en 2018. qui est, j'ai créé une page Facebook et voilà. Et deux semaines après, je me retrouvais à marcher entre ma ville natale, Roanne et Lyon, où il y a peu plus d'une centaine de kilomètres, et j'ai marché avec deux personnes pendant trois jours où on a ramassé les déchets sur notre chemin, et on est arrivé à Lyon où je me retrouvais à faire un ramassage avec 60 personnes, le maire de la ville, des journaux locaux et tout. Je me disais, what? Ok, d'accord. Et après, je remonte à Paris deux jours après et je fais un événement avec 250 personnes, avec Brut, avec plein de gens, et je fais, mais ok. Et c'était fou. Et je me suis dit, putain, là, il y a vraiment un truc cool que j'ai jamais trop ressenti avant, qui est que, en fait, tu t'en fous de ramasser les déchets, parce que tu sais que j'ai su très vite après ça que tu sauves pas t'avais pas sauvé le monde comme ça, mais juste que ça permet de rassembler les gens, et il y a eu des moments de partage dans ces événements qui étaient fous. Et donc voilà, le but, le vrai but au fond, c'est ça, c'est juste d'avoir des moments de partage avec les gens et d'amener une vraie prise de conscience, quoi. Que les gens, à travers ce geste simple, se rendent compte qu'il y a bien d'autres combats très importants à mener en ce moment, quoi. Voilà.
C'est quoi les déchets que tu retrouves le plus ?
Voilà. Mais il y en a plein. En plus, là, aujourd'hui, où je vis, donc près de l'océan, c'est encore d'autres types. Là, ça m'impacte encore plus en ce moment, d'ailleurs, parce que c'est la fin de la chaîne, en fait, l'océan. les déchets qui sont rejetés par l'océan sur la plage, c'est vraiment la fin de la chaîne. Et le problème, c'est que comme tu vois tout, tu te rends compte que voilà, tout pollue. Aujourd'hui, tu peux trouver n'importe quoi. Je peux trouver des bouteilles qui viennent de Chine, des caisses de plastique de pêche, des filets, des jouets, tu trouves de tout, en fait. Tu trouves de tout, malheureusement. Et c'est là que tu te rends compte que toute notre consommation est à revoir, quoi. Mm-mm. Voilà.
Petite question pratico-pratique. Oui. Une fois que vous avez ramassé les déchets, qu'est-ce que vous en faites?
Ah, on les rejette dans l'océan.
Ah, bah super. Ouais, voilà. C'est un beau cycle.
Qu'est-ce qu'on en fait? Malheureusement, il faut se rendre compte que c'est des matières et des matières. Parce qu'on dit déchets, mais ça reste des matières qui ont vécu tout un périple avant et donc qui sont très peu réutilisables. Donc tout ça, ça va finir incinéré. Et c'est déjà mieux que plutôt que ça reste sur la plage ou que ça impacte la biodiversité présente autour. Donc voilà, principalement, ça termine là. On essaie de revaloriser au mieux avec les différentes autres assos avec qui on peut agir partout en France pour revaloriser certaines choses, que ce soit les mégots, que ce soit des bouchons de bouteilles en plastique. Voilà, on essaie de revaloriser au mieux, mais souvent, il faut pas oublier que c'est des matières qui sont peu utilisables et on se rend compte même en 2020 aujourd'hui qu'il y a encore très peu de sociétés qui réutilisent de la matière, donc en plus réutiliser ce type de matière là c'est très compliqué, quoi.
Oui, donc pour avoir à éviter de ramasser trop de déchets, finalement il faudrait commencer par agir sur ce que l'on va jeter. Donc pour tenter de convaincre ou pas les gens de faire attention à leurs déchets au quotidien, j'aimerais essayer de comprendre les impacts concrets que peuvent avoir les déchets sur l'environnement. C'est vrai qu'on n'imagine pas toujours tout le processus qu'il peut y avoir une fois qu'on a mis notre bouteille en plastique dans une poubelle, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler des impacts concrets, visibles et invisibles d'ailleurs, qu'ont nos déchets sur l'environnement?
Et en plus, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait l'ENA pour... Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est une vieille expression. L'ENA, c'est une grande école, donc ça veut dire que pas fait l'ENA, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études. En gros... Quand tu te rends compte que quelque chose qui n'est pas naturel se retrouve dans la nature, déjà tu te rends compte que tout ce qui vit du coup dans la nature ne peut pas prendre ça en compte normalement. Donc ça veut dire que un sac plastique qui se retrouve dans l'océan, eh ben, ça devient normalement une source d'alimentation pour la biodiversité qui est là, parce que pour elle c'est quelque chose qui doit être naturel parce que c'est dans l'environnement naturel. Donc déjà, premièrement, ça a un impact sur la biodiversité. Donc quand on dit biodiversité, c'est les animaux et la végétation et autres qui vivent là. Donc ça a un impact sur eux. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'être très très informé pour comprendre que ça tue des millions. Ça tue plus de 1,5 million d'animaux par an, la pollution des déchets sauvages. Voilà, donc déjà ça. Et puis après, ça a un impact aussi de par leur composition. Où la plupart vont mettre des années et des années à se détériorer, pas à se désintégrer. Ça se détériore, et quand ça se détériore, tous les produits chimiques et les contenants qui sont dedans impactent tout l'environnement qu'il y a autour. Donc ça va impacter l'herbe, le sol, la terre qui est là, et donc ça va impacter tout ce qui vit dans la terre, ça va impacter tout ce qui vit au-dessus de la terre. Donc voilà, forcément, ça a un impact, quoi. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, que c'est pas juste une bouteille en plastique, c'est pas juste un paquet de chips, c'est pas juste un filet de pêche. C'est des choses qui ont vraiment un énorme impact derrière. Par exemple, le filet de pêche est un très bon exemple. Si vous trouvez un filet de pêche sur la plage, prenez-le et juste vous le défaites un peu et tu te rends compte c'est que des mini fils de mini morceaux de plastique. Et tu dis que ça c'est une arme folle, quoi. Voilà.
Super.
Et on va se marrer dans ce podcast.
Ouais.
On a dit, là, on est là pour la rigolade, nous.
Non, c'est bientôt fini la partie un peu.
Ah, d'accord.
Un peu pas
cool. Après, on fait des blagues.
Mais j'aimerais quand même avant faire un petit focus sur le mégot de cigarette.
Oui.
Cette petite chose qui semble anodine et qu'on jette par terre comme par habitude pour certains. Mais finalement, cette si petite chose, ça représente quand même 500 litres d'eau par mégot. Est-ce que tu peux nous parler peut-être plus en détail de l'impact qu'ont ces petits mégots sur l'environnement?
Ouais, ça pollue 500 litres d'eau parce que j'avais le chiffre, faudrait le retrouver, je l'ai dit dans une vidéo.
Ouais.
Je l'ai dit dans une vidéo de d'une clean walk à Bordeaux, je me rappelle.
Ok.
Je me rappelle plus précisément, mais je crois qu'il y a plus de 2000 substances toxiques dans un mégot.
C'est 4000, je l'ai noté.
4000, merci, ouais, ouais, ouais. Putain, c'est cool,
j'avais
merci.
J'avais noté des petits trucs, c'est 4000.
C'est 4000 substances toxiques, tu vois, j'avais dit 2000, ça paraît déjà énorme, il y en a deux fois plus. Donc ouais, ça pareil, c'est une arme terrible. Bah, tu le vois déjà sur la santé des gens, c'est atroce. Mm. Donc tu te dis comment ça peut être bénéfique pour l'environnement, tu vois, comme si quand tu le mettais dans l'eau, c'est bien gentil. Donc ouais, c'est un enfer. C'est un enfer et tu le vois. Moi, c'est les retours que souvent me font les différents ambassadeurs du mouvement Clean Walker un peu partout en France. C'est que souvent, dans les ramassages qu'ils font, il y a que des mégots, quoi. Mm. Et donc oui, c'est. Mais le problème, c'est que c'est devenu anodin. C'est devenu dans le paysage des villes, c'est devenu anodin qui est ça. Voilà, quand tu vas dans des grandes villes, tu te rends compte que les pieds des arbres, c'est devenu des cendriers. C'est pas devenu un endroit naturel, tu vois. Donc allez, bon, allez, les questions sympa.
Si, ouais, les questions philo arrivent après. Et si quelqu'un veut organiser un événement Clean Walker dans sa ville,
eh ben, tu te démerdes.
Non, okay.
Non, ce que vous pouvez faire, c'est de nous écrire. On a des pages Facebook. Faut savoir qu'aujourd'hui, le mouvement Clean Walker, c'est plus de 24 antennes, mine de rien. Mm-hmm. Donc, quand je dis antenne, c'est qu'il y a 24 personnes qui se sont dit un jour, ok, moi j'ai envie de prendre part à ce mouvement dans ma ville, et comment je peux faire? Et du coup, cette personne nous a écrit, on l'a accompagné, on l'a dit, viens, fais comme nous on a fait avant, mets en place quelque chose, et du coup, il y a 24 responsables de ce mouvement un peu partout en France, à l'étranger aussi. Donc si déjà vous êtes dans une de ces 24 villes que vous retrouvez sur les réseaux, vous avez juste à taper, vous trouvez ça. Si vous êtes dans une de ces 24 villes, ben contactez ces antennes-là pour proposer votre aide ou autre. Et sinon, après, là pour l'instant, on explique ça via une page Facebook, mais on a un site qui arrive bientôt normalement, où on explique vraiment tout en détail comment mettre en place un événement. Et nous, de toute façon, la base, c'est qu'on veut que ça soit quelque chose de simple, rapide et à mettre en place. Comme n'importe quoi, comme toi, si t'as envie de sortir de chez toi, tu prends un sac, tu ramasses qu'il y a sur ton chemin, envoie un SMS à tes potes et tu dis viens, on y va ensemble, quoi. Et t'as pas besoin de plus, hein. Voilà.
Ok. J'aimerais avoir ton avis pour casser ou pas un préjugé sur le bio en vrac.
Ouais.
On a souvent cette excuse de non, j'achète pas en vrac parce que c'est un truc de bobo et ça coûte cher. Mmh. Est-ce que vraiment acheter en vrac, c'est plus cher que de l'emballer en supermarché, par exemple?
Ça dépend comment tu vois la chose, parce que plus cher... En fait, ça revient à la façon dont tu consommes. Aujourd'hui, moi, je sais que je consomme moins, donc forcément, j'achète des choses peut-être plus chères de base, mais en fait, ça me revient à moins cher parce que je consomme moins. Donc c'est plus ça la question qu'il faut se poser, quoi. Prends par exemple une boîte de cookies emballée en plastique dans des rayons et que la boîte elle coûte 1 euro, c'est sûr que tu peux en prendre 15, tu t'en branles, t'en auras plein et voilà. Oui. Mais regarde ce qu'il y a dedans, tu vois, regarde ce qu'il y a dedans, regarde comment c'est fait, regarde d'où ça vient. C'est plus ça la question du le vrac cher ou pas cher, est-ce que ça... aujourd'hui, moi, voilà, là, je regarde mes rayons de chez moi devant toi. Il y a du plastique. Il y en a. Je suis pas à zéro déchet. Je crois pas au truc zéro, moi. Genre zéro impact carbone, zéro déchet, zéro machin. Non, zéro, non. Mais j'essaie de faire attention. Et en tout cas, je préfère plus parler de consommer local, de saison, que de chercher à être zéro ci, zéro ça. Trouver un équilibre, quoi. Tout n'est qu'équilibre, de toute façon. Et puis après, ça a aucun sens. Si par exemple tu prends du vrac mais que le truc vient de Pérou, ça a aucun sens. Mmh. Donc vaut mieux que t'achètes un truc qui a un truc emballé en plastique mais qui a été produit à 50 mètres de chez toi. Donc c'est du bon sens, quoi. Quand tu consommes, faut faire preuve de bon sens et faut vouloir se renseigner un peu et se dire ok, qu'est-ce que je fous dans mon assiette, quoi. Voilà, je dirais ça.
Bon, ça te dit qu'on passe aux questions un peu plus philo?
Oui, ah bah
sans
transition. Ça a duré une heure par contre. Hein. Allez. Bonjour, bienvenue.
Deuxième partie, hop. C'est quoi le bonheur pour toi?
Oh, t'es sérieux? Quoi le bonheur? Bon. C'est quoi le bonheur? C'est horrible, mais spontanément, ce qui me vient, c'est d'être le moins souvent ennuyé possible et le moins souvent triste possible. Ça, c'est spontanément ce qui me viendrait. Après, le bonheur, c'est quoi? Je pense que c'est d'arriver à... C'est d'arriver à une harmonie, à un équilibre de tes valeurs et de tes envies. Voilà, je pense que c'est plus ça, d'arriver à un équilibre et d'être en harmonie avec ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Voilà.
Et réussir sa vie, ça serait quoi pour toi?
Ah, j'aime pas cette phrase déjà.
Ah ouais, il n'y a pas de réussite?
Si, il y a de la réussite, mais ça veut dire quoi réussir sa vie? Tu vois, si Corinne, 75 ans, elle voulait être femme de boulanger toute sa vie et qu'elle a été femme de boulanger et qu'elle a été contente, bah, elle a réussi sa vie. Mais pour 95% des gens, ça aurait été une femme de boulanger qui a rien foutu de sa vie, quoi. Mmh. Tu vois, enfin.
Oui, oui, oui.
Donc, ça veut dire quoi réussir sa vie? Je ne sais pas. Est-ce que réussir sa vie? Est-ce que genre quand tu vas finir ta vie, il y a quelqu'un qui va te dire « Ok, donc suite à tout ce qu'on a analysé pendant plus de 80 ans, tu n'as pas réussi donc ça ta vie. » Tu vois, est-ce qu'il y a un barème, une notation de réussite? Non, il n'y a pas de... Donc réussir sa vie, c'est... Il n'y a pas de réussir sa vie, quoi. C'est déjà compliqué de vivre pleinement, surtout actuellement. C'est compliqué d'être bien dans cette société-là, de trouver une place dans ce monde-là, d'être bien avec soi-même. Il y a déjà, on démarre déjà la vie avec un bagage bien galère. Donc, si en plus on nous rabâche toute la journée le fait que il faut que tu réussisses ta vie, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, il y a pas de il faut. Bah pour moi, réussir sa vie, c'est être bien avec soi et être en voilà, franchement, fais ce que tu veux quand t'as envie de le faire, sans te poser de questions et te dire faut que ça plaise à un tel ou un tel. Après, c'est facile à dire parce que, en plus, en comparaison de ça, on est tout le temps à se comparer l'un l'autre, à être en compétition, tu vois, tu le vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont une parfaite image, on est tout le temps à se comparer les uns les autres, à lui, il fait mieux, lui, il fait ci, lui, il fait ça. C'est compliqué, donc, ouais, pour moi, il n'y a pas de réussir sa vie, il y a essayer d'être bien dedans. C'est déjà pas mal, quoi.
Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien?
Alors, au quotidien, en ce moment, je dirais des choses assez simples. La nature est assez inspirante. Moi, j'essaie souvent de terminer ma journée avec un coucher de soleil. Parce que, genre, je trouve ça un des trucs les plus beaux qui existent. Tu peux avoir eu la pire journée de ta vie. Si tu vois ça, tout va mieux. Donc, la nature est assez inspirante en ce moment. Et après, qu'est-ce qui est inspirant? Les rencontres. Les rencontres, c'est... J'ai l'impression de faire du Edouard Baird. Les rencontres, c'est forge une existence. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est le plus important, c'est les rencontres, hors blague. Parce que je vois, moi, les moments de kiff que j'ai eu... De toute façon, les moments de kiff qu'on a tous, c'est quand tu passes des week-ends avec des potes, c'est quand tu fais des week-ends en famille, c'est quand tu fais des soirées, c'est des souvenirs de vacances. Et les meilleurs moments qu'on a, c'est des trucs qu'on partage avec les autres la plupart du temps. Donc ouais, ce qui est inspirant, c'est les rencontres, quoi. Et c'est pour ça que, par exemple, là, un de mes objectifs ces prochains mois, c'est de travailler avec des gens, d'arrêter de faire des trucs un peu seuls et de bosser avec des gens, quoi.
T'as des projets en particulier qui se dessinent ou pas?
Là, je suis passé par une période où, là, ça fait un an où, du coup, j'ai déménagé, je suis venu habiter dans le sud-ouest et il y a eu un besoin de digérer ça malgré tout. Que genre, quand tu changes de vie, entre guillemets, après 7 ans d'un certain parcours, dans une certaine ville, avec un certain cadre, des gens et tout, c'est... Je pensais pas, mais ça demande du temps de le digérer, malgré tout. Après, si j'ai un côté un peu réaliste aussi, c'est que parfois, je peux être un peu feignant et je peux laisser un peu traîner les choses. Mais là, en tout cas, l'idée, c'est que j'arrive déjà à faire ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. En tout cas, faire encore autre chose. Oui. Je préfère dire encore autre chose. Et donc là, j'ai envie de trouver comment je peux continuer à partager mon parcours, ma transition, mon déclic, comment je me suis engagé. Et donc là, ça s'oriente plus vers, voilà, aujourd'hui, Je me suis formé à apprendre aux gens à mieux communiquer. Et ça m'a formé aussi moi, du coup. Donc, je m'oriente plus là-dessus et c'est ce qui m'intéresse, c'est de conseiller, écouter et partager mes expériences, quoi. Et donc, j'aimerais bien continuer à faire ça. Et si ça peut devenir mon métier, c'est bien. Et puis voilà. Puis après, je me fais des petits kiffs. Je pense qu'on se définit beaucoup aussi par notre taf, tu vois. Tu me posais la question au début. Et c'est horrible d'avoir ce réflexe de la première question qu'on pose à quelqu'un, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Et que le réflexe que t'as, en plus de répondre, c'est de dire « Ben, je travaille en tant que consultant, du machin. » Alors que tu pourrais dire « Ben, je fais du vélo, je fais machin, j'aime bien la peinture. Ouais, » ouais. Et personne toi, répond comme ouais, ça, quoi. Ouais. Et là, ben, je dirais que les petits kiffs, par exemple, c'est en ce moment, c'est de faire de la photo, je kiffe ça. Donc, je me définis en tant que photographe, quoi.
C'est quoi que t'aimes dans la photo ?
Oh, qu'est-ce que j'aime dans la photo ? Bah, il y a un truc de saisir les moments qui est assez agréable. C'est pas tant de saisir le moment en mode, tu sais, parce qu'il va disparaître, qu'on va plus le revoir. Il n'y a pas de ça, c'est juste de saisir de saisir une image dans ce moment qui vient de se passer. Et puis, ouais, de créer un souvenir aussi. Là, par exemple, il y a deux jours, ouais, j'ai pris je te disais avant, mais j'ai pris une session de surfeur pro en photo. Et derrière, il y en a deux. À qui j'ai pu envoyer les photos que j'ai faites et qui m'ont dit qu'elles étaient cool. Et ne serait-ce que ça, j'étais hyper content que, d'une part, ils apprécient mon travail et ça fait toujours plaisir, mais qu'en même temps, ils soient contents de les recevoir, quoi. Oui. Qu'ils puissent se dire, ok, j'ai un souvenir de ça. Et ça, ça me fait plaisir. Et puis après, ça, c'est aussi un autre regard pour découvrir, par exemple, la nature, etc. Je sais que je commence à prendre en photo, depuis le confinement, beaucoup les oiseaux, etc. Et c'est une autre façon de découvrir la nature aussi. Du coup, maintenant, j'arrive à reconnaître des chants d'oiseaux, etc. Donc, ça permet aussi de découvrir plein d'autres choses. Et puis, je sais pas, il y a un aspect un peu méditatif aussi où t'es concentré sur un seul truc. Et que je sais, quand je pars, par exemple, en forêt, que je veux prendre en photo des oiseaux, bah, comme je suis concentré que là-dessus, je pense à rien d'autre. Et c'est hyper agréable. Voilà. Donc, d'être tout seul avec mon appareil... Comme je disais, il y a pas longtemps, j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. C'est un peu mon meilleur pote en ce moment, quoi. Je passe toutes mes matins et mes soirs avec lui, et c'est cool.
C'est cool.
Ouais, voilà.
C'est quoi ta citation préférée ? Est-ce que tu vas nous sortir du Edouard Baer ou pas ?
Alors, non, Edouard Baer. Ouais, il a dit Edouard Baer. Tu peux pas le citer, je crois. Parce qu'il dit tellement des longues phrases. C'est des livres, ces citations.
C'est vrai, c'est des textes.
Il y en a plein de... Oh, franchement, si je les connais pas par cœur. Je sais que je cite beaucoup Coluche. Tu vois, il y a souvent le jeu que tu fais avec des potes. Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question, qui est... si tu pouvais bouffer avec quelqu'un, tu vois, n'importe qui, ça serait qui ? Ça serait qui, toi ?
Thomas Pesquet.
Ah ouais ? Ah ouais, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Pourquoi Thomas Pesquet ? Ah ben, je ne dénigre pas Thomas Pesquet.
J'ai envie d'avoir une discussion avec lui sur
oui,
sur ce qu'il a vu là-haut, ce qu'il a réalisé oui. Sur la Terre,
c'est
sur l'humain, sur
ouais,
tout ça.
Okay.
Des questions un peu philo avec lui, ouais.
Ah, d'accord.
Mais je le recevrai peut-être un jour ici.
Bah grave, Thomas, faut venir. Hein. Ok, bah moi tu vois, ça serait Coluche.
D'accord.
Parce que le personnage est... l'homme et le personnage était dingue. Et il en a cité tellement des choses qui étaient vraies... mais sinon non, j'ai pas de citation comme ça. Ah si. Non, enfin en tout cas une citation que partage souvent un de mes meilleurs potes, Axel Latueda, qui pourra venir aussi un jour dans ce podcast. Et qui cite souvent, c'est une question plus. Et au début, je faisais pas attention parce que ça vient du Seigneur des Anneaux et j'avoue que j'ai dû en voir un, je crois, je sais même pas.
Je te rassure, j'en ai pas vu un seul.
Et il y a le personnage de Gandalf qui pose cette question, que va-t-on faire du temps qui nous est imparti? Et je trouve que cette question est dingue aussi. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure les questions que je me pose. Je pense que celle-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là ici? Et en ce moment, la réponse que je donne, c'est, essayer de influencer le plus de gens sur, essayer de sauver notre peau. Ce serait pas mal. Mais ouais, et sinon, non.
Tu vas nous rebaisser sont... le
moral. Ouais, non, le moral. Non, 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 allez, on est content. On est... Non, mais faudrait que je retrouve la citation de Coluche que j'ai. Je peux peut-être. Attends, je vais tricher 2 secondes, je crois que j'en ai. Je vais y tomber. Non, mais je prends mon ordi parce que je. On triche un peu. C'est du direct. Je suis actuellement sur mon ordinateur qui est un peu long. Hein. Et ça se trouve, vous allez être totalement déçus de ce que j'ai proposé.
Là, on s'attend à un truc de fou quand
non,
même.
Non, mais même moi, je me rappelle pas. Ah, allez. Déjà, je sais plus où je l'ai... Je sais plus où je l'ai mise. Oh non! C'est terrible, l'ordinateur vient de s'éteindre. C'est terrible, on ne trouvera jamais cette citation. C'est terrible. C'est terrible. Je crois qu'il veut pas que je la dise. Mais c'est horrible que je me rappelle pas en plus.
Je la mettrai...
Je l'enverrai. Voilà, ouais. Je te l'enverrai après. Mais c'était une citation de Coluche, mais il y en a plein. Donc voilà.
Ok. Bon, dernière petite question.
Oui.
Pour la fin,
oui.
Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui?
Est-ce que là, je peux retricher?
Ouais, si ton ordi se rallume.
Non, c'est pas... Alors, attends. Alors, pour savoir, là, je viens de prendre le livre que j'ai écrit dans les mains. C'est horrible parce que quand je commence des phrases comme ça, j'ai vraiment l'impression de, tu vois, c'est pas un peu genre nombriliste et tout, qui parle de soi et tout. Et ça, c'est ma hantise. Genre, quand je parle sur les réseaux sociaux, par exemple, je détesterais que quelqu'un m'écrive et me dise un jour, putain, mais quand tu te la pètes, quoi, tu parles tout. Ça, c'est ma pire hantise.
Message bien passé.
ce qu'en gros, je dirais, c'est ce que je dis à la fin de ce livre, où je dis, je peux me permettre de lire.
Bien sûr, ouais, ouais.
Je dis, toi qui viens de lire cet ouvrage, sache que l'important, en tout cas ce à quoi j'aimerais beaucoup arriver, c'est que tu te poses une question, n'importe laquelle. Est-ce que tu fais le bon boulot? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis engagé? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Bref, que tu te poses une question, que tu as envie d'y répondre et que cela en amène une autre, puis une autre encore. J'aimerais qu'après avoir refermé ce livre, tu aies envie de devenir acteur de ta réalité. Que tu décides ce qui est bon pour toi, ce qui te semble juste au moment où tu décides de le faire. Je ne pense pas qu'on sauvera notre futur avec des milliers d'écolos exemplaires. Je pense que l'on va avoir un demain grâce à des gens conscients et éveillés, ayant pour but de se connaître et de s'aimer. Alors aime-toi, c'est comme ça que tu aimeras le monde qui t'entoure et que tu voudras le défendre. Tu es quelqu'un de bien, comme toutes ces personnes dont tu as lu les quelques tranches de vie, et capable de changer de vision, de changer de discours, de changer de point de vue, tout en restant toi-même.
Waouh!
Voilà!
C'est trop beau, merci beaucoup.
Merci. C'est écrit par un mec vachement bien.
Je crois qu'il s'appelle Benjamin, non? Quelque chose comme ça.
Hors blague. Hors blague, c'est vraiment ce que je donnerais comme conseil. Dernièrement, j'avoue que je relis ça, cette phrase à la con, parce que même moi, je l'ai écrite et je l'oublie en fait. Et ouais, je dirais genre, aimons-nous déjà, apprenons-nous à nous aimer. À se poser des questions, à essayer de toujours y répondre et bon, se laisser un peu tranquille parfois.
Oui, c'est aussi, c'est important. Ouais.
Et voilà. Et puis peut-être que je rajouterais un truc qu'une personne m'a dit un jour que j'avais rencontré chez Surfrider, où on parlait de l'océan, et qui m'a dit ce qu'on veut faire, nous, c'est apprendre aux jeunes à aimer l'océan, parce que quand t'aimes quelque chose, t'as envie de le défendre. Et donc ça a trop de sens aussi. Voilà, apprends à aimer les choses et t'auras envie de les défendre. Donc si tu t'apprends à t'aimer, t'auras envie de te défendre.
Et si t'apprends à aimer la vie, t'auras envie de la sauver.
Voilà, bim, allez, franchement, voilà. On termine là-dessus. Merci à tous.
Allez.
Bravo.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant... Savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.